Radio Livre Dormir.
Radio Livre Dormir.
Radio Livre ou Dormir.
Retransmission de rencontres littéraires.
Le matin, de 8h
à 10h,
le jeudi matin.
Radio Livre ou Dormir.
Retransmission de rencontres littéraires.
92.2 sur Canal Sud.
92.2. Rencontre avec Nicolas Rouillet autour de son livre « T'as pas trouvé pire comme boulot ?» Chronique d'un auxiliaire de vie en maison de retraite, paru aux éditions Luxe, le 16 mai 2023 à la librairie Terra Nova.
Bonsoir à toutes et tous. Et n'hésitez pas, il y a des places devant. Encore. Merci beaucoup d'être là. Pour cette rencontre avec Nicolas, que je remercie aussi beaucoup de sa confiance pour sa première rencontre, enfin autour de ce livre en tout cas. Non, ou t'en as fait d'autres déjà ?
Non, c'est la première.
Et merci aux éditions Luxe aussi, dont on a un représentant à Toulouse maintenant et qui nous fait confiance pour proposer des rencontres autour de ces livres. Alors Nicolas, je vais essayer de te présenter à partir de ce que je sais de toi et des éléments que j'ai pu glaner sur Internet. Donc tu m'arrêtes parce que c'est que sur Internet, il n'y a pas que des vérités. Donc tu me dis. Donc tu as fait des études scientifiques.
Oui.
Oui. Et alors c'est vraiment en résumé assez une biographie très brève. Tu as pris la tangente direction l'Indonésie et tu as traversé les pays de l'ancien bloc soviétique, le Pakistan, l'Inde, pour finir et passer quelque temps en Indonésie.
Oui. Oui.
C'est bien. Après, c'est bon. Depuis longtemps, tu te consacres à l'écriture.
Voilà.
Tu as déjà publié deux romans qu'on trouve devant la caisse. Le premier, c'était Le Samovar, qui était paru aux éditions Moisson Rouge. Une édition qui est épuisée, qui a été rééditée il y a 2 ans, je crois, aux éditions Demain les Flammes, édition toulousaine de grande qualité. Et Timika, Western Papou, qui a été publié en 2018 par une très belle maison aussi, les éditions Nacarsis. Et tu publies régulièrement dans le journal marseillais de critique et d'expérimentation sociale, CQFD. Et on fera le lien avec ce journal en parlant de ton dernier livre. Donc la rencontre de ce soir a pour moi une saveur particulière. D'abord parce qu'on se connaît depuis un petit moment. On s'est connus au bord d'un terrain de rugby. Je ne sais pas si tu te souviens, c'est la première. Voilà.
Oui, c'est vrai.
On avait, avec nos enfants qui faisaient leur début dans ce sport. Enfin, le mien, il a vite arrêté.
Bah, pareil pour le mien.
Et ensuite, parce que quand tu es passé à la librairie, je crois que c'était l'été 2021 pour chercher un livre, au détour d'une discussion, tu m'as appris que tu travaillais dans une maison de retraite en tant qu'auxiliaire ASH, du coup je sais même, auxiliaire des services hospitaliers.
Agent des services hospitaliers.
Oui, auxiliaire.
C'est auxiliaire de vie, hein, c'est à peu près la oui. même chose.
Ok. Et moi, ma mère venait d'intégrer un EHPAD, donc on a eu une discussion assez longue dont je me souviens qu'elle était assez riche m'avait beaucoup intéressé parce qu'on découvrait, moi un petit peu plus tard que toi, l'univers de l'EHPAD. Et moi, c'était à ce moment-là un sujet assez sensible. Donc aujourd'hui, c'est un prolongement naturel de se retrouver ici pour parler de ce livre, donc qui est paru il y a quelques jours chez Lux et qui a pour titre « T'as pas trouvé pire comme boulot » et sous-titré « Chronique d'un travailleur en maison de retraite ». Donc dans ce livre, en 28 chroniques de 3 à 5, 6 pages chacune, certaines sont un petit peu plus longues, tu rends compte de ton quotidien d'agent hospitalier en maison de retraite pendant un an et demi. Et c'est un récit sensible, écrit sans effet stylistique, avec une langue sans emphase qui respecte son sujet, précise et humble, et avec un ton juste, enjoué et drôle parfois, et grave aussi quand il le faut. Tu nous fais sourire, tu nous émeus, et tu nous fais réfléchir à la place que nous réservons à nos vieux dans notre société. Car oui, au-delà des destins individuels qui se croisent dans cette institution et dont tu nous racontes des bribes d'existence, il y est question, souvent sous texte, de sujets politiques, de moyens financiers, de considérations pour les soignantes, d'aide sociale. Et tu nous parles d'ennui, de moments de folie et de joie, de colère, d'enfermement, de fatigue, des corps vieillissants, mais aussi de solidarité et d'amitié. Donc en résumé, c'est un livre qui m'a beaucoup touché. Et je tiens à le préciser grâce à ses qualités intrinsèques et pas seulement pour des raisons personnelles. Et maintenant, on va t'écouter parler de ce livre. Alors, le Covid, enfin, juste, je vais lancer le contextualiser. Donc, le Covid, là aussi, tu m'interromps si je dis des bêtises, mais je pense que ça va. T'obliges à interrompre les projets d'écriture dans lesquels tu étais engagé. Et tu te vois contraint de chercher un boulot alimentaire avec le souhait qu'il ait une certaine utilité sociale et qu'il ne soit pas trop abrutissant. Le Pôle emploi propose à ce moment-là beaucoup de postes d'auxiliaire de vie ou d'agent hospitalier en EHPAD. Et c'est tout naturellement que tu te retrouves à travailler dans ce que tu préfères appeler une maison de retraite, plutôt qu'un EHPAD. Et voilà, donc est-ce que tu peux nous présenter la maison de retraite dans laquelle tu as travaillé ? Et dire deux mots des différents métiers qu'on peut exercer en EHPAD. Voilà, ta place un peu dans le dispositif.
Bah d'abord, merci à toutes et tous d'être venus aussi nombreux. Ça me fait chaud au cœur. Moi, je n'emploie pas le terme maison de retraite. Comme tout le monde, je dis EHPAD. Il se trouve que l'éditeur est québécois. Et qu'au Québec, EHPAD, ça ne parle pas. Donc, on a choisi de parler de maison de retraite. L'EHPAD dans lequel j'ai travaillé, c'est un établissement assez important, avec près de 90 résidents. Que dire les différents métiers ? Ben moi, j'étais embauché comme ASH, agent des services hospitaliers, ce qu'on appelle aussi auxiliaire de vie. Il y a peut-être des petites nuances, mais moi, je ne les ai pas forcément en tête. Il y a surtout des aides-soignantes. C'est un peu le cœur du métier. Alors je dis aide-soignante, il y a des hommes aussi, mais c'est essentiellement un métier qui est assuré par des femmes. Donc j'ai choisi dans le livre de garder au féminin tout ce qui concerne le soin. Parler d'infirmières aussi, il y a des infirmiers, mais en majorité ce sont des femmes. Voilà, bon, sur les effectifs du personnel, je ne saurais pas dire. Bon, après, il y a une personne ici qui pourrait apporter des précisions. Je ne sais pas si elle en a envie. Marine, si tu veux préciser ou me reprendre si je dis des bêtises, nous te donnerons la parole, évidemment.
Est-ce que tu peux nous parler de tes premières journées de travail et puis nous dire à quel moment naît ton projet d'écriture et comment il est né en fait ? Comment tu t'es dit, bon, je sais que tu as une pratique d'écriture, donc tu es habitué à prendre des notes, mais comment tu t'es dit, je vais en faire une matière et à quel moment ?
Bah, la première journée, c'est pas que c'est l'horreur, mais c'est quand même c'est rude. C'est, moi, ça m'a vraiment percuté parce qu'il y a, d'une part le travail à faire, toutes ces tâches, et il y en a quand même un certain nombre, avec tout le vocabulaire, avec tout déjà l'établissement où c'est grand, moi je débarquais complètement, hein, j'ai aucune formation en médico-social ou même en nettoyage, parce que c'était quand même pour ça que j'étais embauché, hein, pour faire du nettoyage. Donc tout à découvrir, à retenir, plein de personnes, hein, des collègues et les résidents. Et là, franchement, moi, ça a été une claque, hein, de voir dans quel état étaient les personnes en maison de retraite. Hein, on n'a pas forcément. Donc il y a des personnes qui sont tout à fait valides, qui ont leur tête, et puis d'autres beaucoup moins. Et puis il y a des personnes qui sont quand même dans un état physique assez... qui sont mal en point quand même. Donc ça a été assez rude émotionnellement. Donc en fait, j'ai commencé à prendre des notes... un peu pour me décharger, un peu pour ne pas oublier. Il y avait une partie, il fallait quand même que je me souvienne de toutes les consignes, comment faire tout ce qu'il y a à faire. Et puis après, c'est devenu un peu machinal. Moi, j'ai fait ça quand j'écris mon roman sur les squats, prendre des notes, raconter ce que je vois, c'est une pratique assez naturelle. Et voilà, donc j'ai commencé à écrire, à accumuler des notes. Et au bout d'un moment, je me suis dit qu'il faudrait peut-être en faire quelque chose. Donc j'ai proposé à CQFD, qui est un journal à Marseille, journal donc assez militant, et j'aurais proposé une chronique de l'EHPAD pour raconter ce qui s'y passe. Et ils ont été assez emballés par l'idée, et c'est parti très vite comme ça. Donc un format de quelques pages, hein, assez bref, mais pour raconter... le travail d'ASH, la vie en EHPAD, ce qui s'y passe, les côtés un peu qui moi m'ont choqué, les côtés aussi qui m'ont surpris ou les bons moments, etc.
Et oui, donc la méthode d'écriture, tu rentres le soir et tu trouves encore un peu d'énergie pour écrire, ou comment tu procèdes pour travailler sur ces chroniques?
Au début, je travaillais le matin, donc je rentrais, je faisais une sieste, et puis après je me mettais un peu à écrire ce qui s'était passé au cours de cette matinée. En fait, je l'ai fait, je crois, sur chaque journée que j'ai passée à l'EHPAD, j'ai écrit. Parfois, c'était assez bref. Ça dépendait de l'énergie qui me restait, mais souvent, enfin surtout au début, j'ai un cahier entier, un gros cahier sur les trois premiers mois de septembre à décembre. Bon, après, ça s'est un peu allégé, mais je crois qu'à chaque fois, il y a quelque chose qui... À un moment, j'en ai eu marre quand même, parce que c'est devenu un peu une corvée. À chaque fois, je me dis, bah, ça quand même, faut pas que je l'oublie, donc... Donc je notais un petit peu et ça s'est vite accumulé.
Tu as choisi de publier les chroniques CQFD sous pseudo. C'était un choix qui était évident pour toi?
Oui. Ouais. Oui. Là, sur la localisation de l'établissement, sur l'identité des personnes, tout ça, j'ai fait extrêmement attention. C'était un peu délicat quand même, je ne l'ai dit à personne. Moi, je me suis senti un peu mal à l'aise par rapport à ça, parce que j'aurais aimé pouvoir en parler. En même temps, c'était compliqué. J'écris sur, sur les personnes qui faisaient mon quotidien, qui faisaient mon entourage. Donc c'est toujours un peu délicat. Après, changer les noms, c'est pas évident parce que bon, des prénoms, ça va, mais pour beaucoup de résidents, il y a aussi le nom de famille. Hein, c'est Monsieur Untel, Madame Untel. Donc si on veut pas retomber dans les noms de famille des personnes de l'entourage, il faut un peu de matière. Donc le plus dur, en fait, ça a été de trouver un annuaire parce qu'il n'y a plus grand monde qui en a. Donc heureusement, il y a des personnes, j'ai un couple âgé qui a fini par remettre la main sur un annuaire et qui m'a beaucoup servi. C'est une belle source d'inspiration.
Et donc, tu réalises, tu publies 16 chroniques, c'est ça, pour CQFD ?
Il y en a eu 20.
20. Mm. À quel moment, ou est-ce qu'à aucun moment tu t'es dit que ça pourrait faire un livre, et c'est comment c'est passé de chronique dans un mensuel à ce livre, en fait? Qu'est-ce qui s'est passé?
Déjà, j'ai continué à... J'ai travaillé un an et demi dans cette EHPAD. Et une fois que j'ai arrêté, j'avais encore de la matière. Donc j'ai continué les chroniques pendant quelques mois. Après, bon, je dis que quand même, ça n'allait pas durer éternellement. Donc je me suis arrêté à 20. Je trouvais que c'était un bon nombre. Moi, je n'avais pas envie d'en faire autre chose. J'étais plutôt dans l'envie de couper un peu, de décrocher, parce que ça m'a pris du temps à mettre à distance cette expérience. Parce que j'y suis revenu une fois ou deux et je me suis rendu compte que c'était compliqué, en fait. Donc voilà, j'avais plus trop envie d'entendre parler d'EHPAD. Donc j'ai laissé ça de côté. C'est un ami qui m'a proposé d'en faire un livre, ce qui n'était pas évident parce que c'est des petites chroniques quand même, donc 20, ça fait, y a pas assez de matière. Et après, c'était quoi rajouter pour que ça en fasse un livre quand même digne de ce nom. Et là, bon, il y a eu différentes... On a réfléchi à plusieurs choses, notamment à ce que moi, je retourne voir mes collègues pour parler plus du métier, pour avoir, parce que moi, j'ai parlé de mon point de vue, mais on trouvait ça intéressant aussi de donner la parole aux autres personnes. Et c'était assez tentant, mais en même temps, un peu délicat, parce que moi, j'avais pas du tout envie de retourner voir mes collègues avec qui j'avais passé toutes ces journées à travailler, à discuter, à passer de bons moments, et retourner les voir comme une espèce de journaliste ou de sociologue. Et enfin voilà, moi j'avais pas du tout envie de changer ce rapport-là. Donc finalement j'ai dit bon bah non, j'ai un peu laissé tomber l'idée. Et donc cet ami Paulin m'a un peu relancé. Et finalement, je me suis rendu compte que j'avais encore de quoi écrire quelques chroniques et qu'il suffisait de fouiller. Je pensais que j'avais pris l'essentiel pour celles qui sont parues dans le journal. Et en fait, non. Et c'était même plutôt une bonne chose parce que il y a des sujets que j'avais un peu mis à distance ou... Disons que je ne m'étais pas aventuré sur certains terrains. Donc, avec plus de recul et plus de temps, c'était pas mal. C'était plutôt bien d'y revenir.
OK.
Notamment les fois où j'étais pas... Je trouvais que dans ce que j'avais publié dans le journal, il y avait une certaine distance, comme si cette expérience ne me touchait pas de... elle me touchait, hein, mais qu'il y avait une certaine, encore une petite distance. Et bon, je me suis dit qu'il fallait aussi peut-être raconter les fois où il n'y avait plus cette distance et où ça devient un peu problématique dans les relations avec les résidents, par exemple, ou enfin, des fois, clairement, où la fatigue, le manque de patience, où on n'est plus trop dans la bienveillance. Ça, je pense que toutes les personnes qui ont été dans le soin connaissent ça. Des choses dont on n'est peut-être pas très fier, ou aussi quand il y a de la distance qu'il faudrait avoir avec les personnes dont on s'occupe, ça me nuise jusqu'à ce que ça devienne un peu problématique. Donc voilà, j'ai aussi pris le temps de raconter ça, et je pense que c'était plus honnête. Sinon, on a l'impression quand même que c'est... qu'on arrive à garder... c'est la distance qui me vient. Je ne sais pas si c'est le bon terme, mais voilà. En tout cas, j'étais content d'y revenir.
Alors qu'on a parlé il y a quelques jours de cette rencontre, on a un petit peu échangé, tu te posais la question de qui prend la parole pour parler de l'EHPAD. J'ai l'impression que tu te posais la question de la légitimité en tant qu'homme blanc à parler d'un travail qui est pour beaucoup et en grande majorité assuré par des femmes, et par des femmes qui sont souvent des femmes africaines d'outre-mer ou du Maghreb, des femmes des anciennes colonies. Est-ce que tu peux... on a vu aussi le livre... Enfin, on parlait du livre de Victor Castaner, il y a le livre de Didier Ribon. Donc à chaque fois, des hommes blancs qui parlent de problèmes de travail rencontrés plutôt par des femmes.
Ah oui, je me suis fait cette réflexion. Là, dernièrement, une année, il y a eu trois livres qui parlent de l'EHPAD, et les trois écrits par des hommes. Donc ça pose question. C'est des métiers qui sont pris en charge par des femmes essentiellement. Par des femmes racisées notamment. Donc oui, il y a cette question-là se pose. Après, moi, j'explique en introduction d'où je parle, hein, moi, de ma position. Il faudrait avoir la parole des personnes, des principales concernées, c'est sûr. Le problème, c'est comment ? Parce que quand on travaille à plein temps dans ce genre de métier, je pense que c'est très compliqué de prendre la parole, parce que déjà c'est une question de temps, une question d'envie aussi, de possibilités. Donc c'est compliqué. Mais je pense qu'en tout cas, s'il y avait une vraie réflexion sur l'EHPAD, clairement, il faudrait que ces personnes soient entendues.
Alors, j'ai quelques thèmes là, que j'évoquais, comme la fatigue, l'ennui, un peu la folie, par moments, qui s'emparent de l'équipe et du personnel. Est-ce que tu veux nous parler, là je fais un peu dans le désordre, un peu pour rebondir sur ce que tu viens de dire, sur la danse, le chant, tu évoques des moments, enfin c'est une chronique que j'ai particulièrement appréciée, des moments d'exaltation collective, de joie partagée à travers le chant ou la danse. Et j'ai l'impression que tu as pris du plaisir là-dedans. Et j'aimerais bien que tu nous en dises deux mots.
La chronique dont tu parle de goûter qu'on a mis en place le dimanche avec une collègue infirmière, enfin à son initiative. Le week-end, il n'y a pas d'animation. Donc on s'ennuie encore plus qu'en semaine. Et donc cette collègue a pris l'initiative d'organiser un goûter. Un goûter avec de la musique, où on chante. Et voilà, ça a commencé gentiment. Donc on l'a fait deux, trois fois. Et c'était sympa. On a... On a chanté, on a écouté de la musique, un peu dansé. Enfin voilà, ça fait un petit moment assez joyeux. Et puis il y a une fois où c'est parti, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais c'est vraiment parti. Il y avait une énergie, donc plein de personnes ont eu envie de danser. Et puis à un moment, j'ai dit, voyant que ça prenait, je lui ai dit, allez, vas-y, envoie de la techno. Elle a mis de la techno. Et puis là, c'est un moment vraiment assez, assez étonnant. Bah oui, vas-y.
Allez. Donc, je la prends en cours. C'est un extrait de cette chronique. Marianne demande à Bernard quel morceau lui ferait plaisir. « Oh, ma jolie Sarah » de Johnny, répond celui-ci. Et le voilà qui accepte l'invitation et se lève. Je n'en reviens pas de voir ce gros ours danser le rock, un demi-sourire sur le visage, lui qui passe ses journées assis dans la pénombre. Il se fait ovationner. Madame Schaeffer, qui aime bien chahuter, se met à gueuler. Je la traite de hooligan et j'en profite pour siffler. Ambiance stade de foot à l'EHPAD. Avant que ça ne retombe, je crie « Vas-y, DJ Marianne, balance de la techno ». Celle-ci tape « Techno » sur YouTube et envoie le premier morceau venu. Techno, toujours pareil. Je monte le volume à fond, boum boum dans les oreilles. Des aides-soignantes répliquent. Des résidentes réclament de l'aide pour être de la partie. Certaines s'amusent comme des gamines. D'autres, horrifiées, se plaquent les mains sur les oreilles. Pour finir, je lance à trois. Tout le monde crie. Un, deux, trois. Et chacune lance son cri. Puis, quand je relance le décompte, tout le monde se met à gueuler à l'unisson sans plus aucune retenue. Résidents et personnel confondus. Et Madame Schaeffer plus fort que tout le monde. Ça fait tellement de bien de se défouler. Le soir, en rentrant à vélo, bien rétamé, j'ai la banane en repassant cette folle après-midi.
Ben oui, moi, ça fait c'est un des moments que je garde vraiment en mémoire. C'est oui, ces petits moments là où on se lâche. Il y en a eu d'autres. Hein. Je pense que ce qu'on n'imagine pas trop aussi, c'est qu'il y a du plaisir aussi dans le travail, de la joie par moment. Comme c'est dur, ça fait aussi des circonstances. On s'entraide, il se passe plein de choses. Donc effectivement, il y a des petits moments de lâchage comme ça qui font du bien à tout le monde. Moi, je me souviens d'une résidente qui est bougon, qui souriait un peu, mais quand même globalement très bougonne. Et plusieurs fois, je lui dis « Allez, à trois, on crie merde !» Et bon, elle le faisait, là. Je dis « Allez, plus fort !» Et jusqu'à ce que vraiment, elle gueule « Merde !» Et je sentais que bah, ouais, ça fait du bien, quoi. Ça fait du bien. Je pense qu'il y a quand même pas mal de résidents. Il n'y avait pas besoin de les pousser beaucoup pour que ça parte, quoi. Cette Madame Schaeffer, notamment, elle aimait bien rigoler, elle aimait bien chahuter. Et voilà, donc des moments comme ça, il y en a.
Tu décris bien aussi comment ces moments sont des moments pris sur le temps nécessaire au quotidien et que finalement... On a le sentiment que parfois l'équipe risque de le payer à un moment ou à un autre. C'est-à-dire que c'est un peu comme quand tu parles des moments que tu prends pour accompagner des résidents prendre l'air, où tu sais qu'il y a des tâches qui t'attendent de nettoyage, de soins, et que cette difficulté-là, en fait, d'assurer ce qui te semble, toi, fondamental dans un quotidien, dans une équipe.
Bah, c'est sûr qu'après après ces goûters le dimanche, il faut reprendre le boulot là où on l'a laissé, tout ce qu'on a laissé en plan, parce que pendant ce temps-là, on est censé faire autre chose. Et en fait, le problème, c'est le manque de temps dédié pour ce genre d'initiative. Donc moi, je m'étais un peu... donner un rôle, parce que ça me plaisait, hein, mais de sortir des résidents dans le jardin, parce que au début, ne sachant pas ce qui était normal ou anormal, on sortait du Covid, il y avait des restrictions, Je voyais personne dans le jardin, mais je ne savais pas si c'était interdit ou pas. Et en fait, j'ai compris que non, ce n'était pas interdit. C'est juste qu'il fallait, prendre le temps de le faire, avoir le temps et le prendre. Donc, je me suis mis à jouer ce rôle. Et alors, sortir dans le jardin, quand on dit ça, ça a l'air d'une banalité. Mais bon, il faut souvent aller chercher des affaires, habiller... amener les personnes devant l'ascenseur, descendre, passer la porte avec le digicode. Et comme on n'a que deux bras, ben on peut pousser qu'un fauteuil si on est seul. Donc c'est quand même une aventure, hein, une petite aventure de sortir dans le jardin. Et ça prend du temps. Et ce temps-là, ben, je l'ai pris assez souvent sur autre chose, hein, c'est-à-dire nettoyer des chambres, nettoyer le couloir et... Et ça, c'était possible aussi parce qu'il y avait une direction bienveillante et qui a estimé que c'était utile et ce que je proposais et qui m'a laissé cette possibilité de faire ça au détriment de tâches que je devais faire. Mais c'est toujours aussi un compromis à trouver parce que c'est quand même plus sympa de sortir dehors que de nettoyer le couloir, par exemple, de passer la serpillière. Donc si moi, je fais ça et que ça se reporte sur les collègues, c'est pas très correct non plus. Donc ça a toujours été un petit équilibre à trouver pour le faire, parce que moi, j'estimais que c'était quand même important, et ne pas non plus en reporter la charge sur les autres.
Je voudrais lire aussi, pour illustrer ce que tu viens de dire, la fin d'une chronique qui s'appelle « Je ne vois pas ce que j'ai bien pu faire de mal », qui est vraiment... j'aurais aimé vouloir lire en entier, mais je pense que je vais me contenter de la fin, qui illustre ce que tu viens de dire. « Mais passer du temps avec les résidents dans le parc, ce n'est pas uniquement être assis sur une chaise en plastique au soleil. Ce sont des allers-retours pour aller chercher les affaires nécessaires dans les chambres, pour amener l'un après l'autre les élus devant l'ascenseur, pour les installer l'une après l'autre dans le jardin en disant « je reviens », puis 15, 20, 30 minutes plus tard, idem, l'un après l'autre, en sens inverse. Et rebelote si les conditions le permettent. La moitié du temps s'éparpille dans les couloirs et dans l'ascenseur, et au bout du compte, une poignée de résidents en profite. Mais il reste la satisfaction d'avoir ouvert une petite brèche pour regarder l'arbre de jus déjaudir et se déplumer, déposer un marron dans le creux d'une main ou simplement rouler avec le fauteuil dans les feuilles mortes pour les entendre crisser, et profiter du ciel pour de vrai, un ciel strié de traînées d'avions où l'on guette le rayon de soleil, ou le nuage menaçant qui annonce la fin de la récré, pas un ciel azur et muet sur le panneau d'affichage d'un ascenseur. Pourquoi si peu de résidents profitent de ces menus plaisirs à portée de main et gratuits ? Manque de personnel et de bonne volonté, certes, mais aussi parce que dans le monde étriqué et médicalisé de l'EHPAD, respirer l'air du dehors, sentir le soleil sur son visage ou le vent dans les cheveux, n'a pas la même valeur qu'une animation à but ludique ou thérapeutique. Donc là, il y avait un petit peu de lyrisme, mais en général, tu évites. Oh,
c'est ma vision des choses. Hein. Il y a aussi, moi, tout ce que je n'ai pas vu ou pas compris. Parfois, une collègue me disait « Ah non, ne fais pas ça. » Parce que telle personne, c'est pas possible, c'est pas... Donc... il y a ce que j'ai vu, ce que j'ai compris et aussi d'autres choses qui m'ont un peu échappé. Moi, je ne suis pas beaucoup allé aux réunions obligatoires de transmission. Je me suis fait tirer les oreilles plusieurs fois. Je voyais pas l'intérêt, mais... c'est les réunions pour passer les informations entre l'équipe du matin et l'équipe de l'après-midi. On passe en revue, l'infirmière en charge de cette réunion passe en revue les résidences. La réunion concerne deux étages, donc la moitié des personnes la moitié des personnes, ça ne me concernait de moins ou de plus loin. Et beaucoup d'informations, des termes médicaux, des choses comme ça. Bon, moi, je trouvais ça un peu chiant et je me sentais plus utile ailleurs. Mais en contrepartie, ben, y a plein de choses que j'aurais pu apprendre aussi et que je n'ai pas su. Moi, je pensais quand même que sur ce temps-là, ben, c'était plus intéressant de passer du temps avec les résidents. Oui, est-ce que c'est la bonne analyse par rapport à la valeur qu'a une sortie dans le jardin, je sais pas, mais en tout cas, moi, ce que j'ai constaté, c'est que beaucoup de personnes, dès que je demandais est-ce que vous voulez sortir, oui, c'était quand même globalement une envie assez partagée. Et que c'est bien dommage que ce ne soit pas plus simple, parce que ça me paraît quand même quelque chose d'assez assez simple et assez fondamental. Et aussi, moi, je regrette un peu que... Je pense que pour les familles, c'est important, le cadre. Donc, quand, au moment de placer une personne en maison de retraite... On fait attention au cadre, donc un parc avec des arbres, ça doit rentrer en ligne de compte. Et quand on s'aperçoit que ça joue pas vraiment de rôle vu qu'ils n'y ont pas accès, je pense qu'il y a quand même un petit problème.
Il y a beaucoup de questions, enfin en tout cas il est question d'amitié, d'amour. Et des sentiments qui peuvent lier les employés, les résidents, les résidents entre eux aussi, les résidentes. Tu évoques la complexité des relations que tu avais avec une femme nommée Claudie, on peut la citer puisque ce n'est pas son vrai prénom. Et est-ce que tu peux nous parler de cette relation qui me semble a peut-être été enfin, un point de bascule dans ton rapport à l'EHPAD, dans le sens où tu as peut-être senti que ta vie professionnelle et ta vie privée commençaient à être cette intrusion de la vie professionnelle dans ta vie privée.
Donc Claudie, c'était une résidente qui, relativement jeune, hein, elle avait une petite soixantaine. Il faut savoir qu'il y a pour rentrer en EHPAD, il faut avoir 60 ans. Donc il y a des personnes qui ont tout juste 60 ans. En tout cas, il y avait un monsieur quand je suis arrivé. C'est généralement des personnes qui ont eu des problèmes de santé graves et qui ne sont plus pris en charge par des centres de rééducation qu'on n'en veut plus nulle part, donc ils finissent à l'EHPAD. Et bon, c'est pas leur place, mais en tout cas, ils y sont. Donc cette femme avait un staphylocoque, et donc elle était immobilisée sur son lit. Et voilà, je trouvais que c'était une personne vraiment... vraiment chouette, avec une certaine joie de vivre malgré sa condition vraiment compliquée. Donc je passais souvent la voir. Disons que globalement, ça faisait partie des personnes qu'on avait plaisir. Je dis « on », c'était assez général. Les collègues passaient voir, discuter, plaisanter. Enfin voilà, il y a globalement de bonnes relations. Enfin, pour celle qui faisait la toilette, c'était certainement plus compliqué. Mais en tout cas, avec cette personne, il y a eu un rapport peut-être un peu plus proche, jusqu'à ce que ça devienne un peu problématique. Par exemple, elle me demandait d'aller lui faire une course. Elle voulait me donner sa carte bleue ou d'autres petites choses. Moi, j'ai toujours voulu garder une certaine distance et notamment ne pas donner mon numéro de téléphone jusqu'à ce qu'elle se débrouille très habilement pour l'avoir. Et là, j'ai senti que c'était un peu problématique. Moi, je voulais mettre de la distance. Et au même moment où j'ai voulu mettre de la distance, c'est là où elle a appris qu'elle devait se faire hospitaliser. Et donc, justement, il y avait besoin de soutien. Donc, c'est compliqué. Il y a l'envie d'accompagner, de ne pas laisser tomber, de se dire, cette barrière qui existe quand même entre soignants et résidents, on peut peut-être quoi, j'en sais rien. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Mais en tout cas, cette personne avait besoin de soutien et moi, je me suis retrouvé à lui dire non, je ne t'appellerai pas. Quoi. Et disons qu'elle n'est pas revenue à l'EHPAD et ça m'a attristé, ça nous a attristé. Et ça, c'est un peu compliqué. C'est compliqué à vivre parce qu'on est souvent confronté au décès. Donc, moi, je crois que sur le temps que j'ai passé, il y en a eu une dizaine. Certains affectent plus que d'autres. Il y a certaines personnes. Pour certaines personnes, ça a été vraiment compliqué parce qu'il y a des liens qui se nouent et on n'est pas préparé. Hein, il y a des personnes qui viennent travailler en EHPAD, qui n'ont aucune formation. On n'a pas le temps. Oui, le décès des personnes, c'est quand même un moment compliqué. Et ça peut arriver par vague. Hein, c'est-à-dire, moi, ça m'est arrivé de revenir un lundi, d'apprendre qu'il y avait eu 3 décès durant le week-end. Alors, c'est un choc. Puis après, pour l'ASH, c'est une chambre à vider, à nettoyer. Moi, ce qui m'a énormément choqué, c'est... Une fois que la famille a récupéré les affaires, le reste part à la poubelle. Comme si c'était quelque chose dont il faut se débarrasser. Quoi. Donc ça, je trouve ça assez violent. Il y a aussi la salle mortuaire nettoyée. Bon, faut prendre ça. Moi, j'ai essayé de prendre ça avec une certaine distance. Hein. Donc, c'est une table en inox. Moi, quand j'ai vu ça, ça m'a fait penser à une plancha et ça m'a fait rigoler. Et donc, voilà, c'est comme ça que j'ai abordé cette corvée dont certaines de mes collègues, c'était juste pas possible. Donc, voilà, il y a ce côté-là, ce rapport. Donc, c'est là où j'étais content en fait d'avoir plus de temps pour écrire ces moments-là parce que ça nécessite plus d'attention.
Oui, donc pour durer, il faut
se blinder.
Il faut se blinder comme
un minimum. Ce que je n'ai pas forcément su faire à certains moments.
Tu parles aussi de technicité et que le métier il est plus technique, enfin le métier de soignante en particulier, que ce qu'on pense, notamment pour déplacer les personnes. Quand tu fais ça toute la journée pendant des années, comment les corps résistent à ça sur la durée. Donc la technique permet de s'économiser et pour les nourrir aussi. Tu évoques un épisode assez difficile, je crois aussi, notamment pour éviter les fausses routes. Est-ce que tu peux nous parler des gestes en fait aussi et de la manière tu me parlais aussi d'une aide-soignante qui t'a inspiré dans le sens où elle économisait ses gestes, enfin qu'elle était un petit peu un modèle pour toi pour la manière qu'elle avait d'économiser ses efforts pour faire une même tâche ou une série de tâches.
Pour le côté physique du travail, je crois que il n'y avait pas une seule collègue qui n'avait pas mal au dos. Ça, c'est quand même terrible parce que ça veut dire travailler avec de la douleur. Et ça, je pense que c'est général. Le métier d'aide-soignante, c'est beaucoup de manipulation des personnes, donc des corps vieillis, abîmés, souvent douloureux. Et donc il faut y aller délicatement et en même temps il faut aller vite. Enfin aller vite. Il faut quand même pour lever. Faut savoir que pour certaines personnes n'ont plus du tout la capacité de se repositionner, de bouger. Donc redresser une personne dans un fauteuil, il faut être deux. Pour les transferts du lit au fauteuil, du fauteuil aux toilettes, enfin toutes ces opérations nécessitent des gestes et aussi une certaine. Il faut de l'énergie, il faut de la. Pas forcément de la force, hein, mais il faut quand même il faut savoir le faire. Pour la toilette, c'est compliqué une toilette. Donc moi, j'avais commencé à me former un petit peu à ces gestes en me disant que ça pouvait toujours servir. Et puis finalement, donc ce qui m'aurait amené à faire le travail d'aide-soignante. Et puis j'ai fait marche arrière. J'ai pas voulu parce que. Je pense que c'est en donnant à manger à un résident, je me suis rendu compte que c'était un peu inconscient. Enfin, pour moi, je trouvais ça que je pouvais pas assumer la responsabilité de mes actes, sachant que quand on donne à manger, il y a un risque de fausse route. Et que c'est ce qui s'est passé avec cette personne. Alors, pas une fausse route, il y a des fausses routes. Il y a des termes, je les connais pas, mais... des fausses routes où la personne s'étouffe. Là, il faut connaître les gestes pour intervenir. Et puis, il y a d'autres fausses routes plus quotidiennes qui font que de la nourriture passe là où elle ne devrait pas passer, que ça amène des infections. Et c'est ce qui s'est passé avec cette personne. Et donc, sous la supervision d'une orthophoniste, donc des orthophonistes interviennent en EHPAD, pour donner des consignes, donc la façon de comment on donne à manger, hein, c'est donc le solide, la texture, si c'est haché, lisse, la texture est très importante, le liquide aussi, la température, gazeux ou pas, la position du corps, il y a plein de techniques qui sont faites pour stimuler la déglutition, pour éviter les fausses routes. Tout ça, ça s'apprend. Et donc, arriver comme ça et donner à manger, je trouvais que c'était pas. Je ne voulais pas prendre cette responsabilité. Pour les soins cutanés aussi, il y a tellement de possibilités d'entraîner quelque chose qui peut être grave. Je pense que apprendre sur le tas, c'est bien, mais ça ne dispense pas de formation. Et donc, oui, ces métiers sont techniques. Après, par rapport à la personne dont tu parles, c'est donc la personne qui m'a formé. Donc au métier d'ASH, c'est une personne qui s'économisait. Donc je pense que ça faisait au moins, je ne sais pas combien de temps depuis combien de temps elle travaillait en EHPAD. Elle a fait d'autres boulots avant, mais en tout cas c'est une personne qui s'économisait. Et ça, on le voit, il y a des personnes qui courent tout le temps et des personnes qui courent jamais. Et les deuxièmes ne sont pas forcément moins efficaces que les premiers. Mais en tout cas, s'économiser, c'est important. S'économiser dans la journée, dans la semaine et après dans la durée. Parce que pour faire plus de 10 ans ou 15 ans ces métiers, il faut vraiment, sans être complètement cassé, il faut y faire attention. Le corps est l'outil de travail quand même.
Et ouais, du coup, ça pointe le manque de moyens, à la fois ce que tu disais sur la technicité, le fait qu'on te propose de faire des tâches qui seraient plutôt, qui devraient être attribuées à des gens formés, qui manquent ou qui ne sont pas assez bien payés. Et en parlant de...
Mais par rapport à ça, donc il y a le côté peut-être la critique que j'apporte, c'est que c'est peut-être on n'est pas formé et donc on n'est peut-être pas en mesure d'assumer ce qu'on fait. Mais le côté très positif, c'est que les PAD forment des gens. Et ça, c'est quand même... je ne sais pas si c'est pareil dans tous les établissements, mais en tout cas, dans celui-là, une personne rentre comme ASH. Si elle en a l'envie, elle peut passer aide-soignante au bout de quelques temps. C'est encouragé. Donc ça, c'est quand même quelque chose de positif. Et l'EHPAD forme beaucoup de personnes. Il y a beaucoup de stagiaires. Il y a des stagiaires aides-soignantes, infirmières. Il y a aussi des lycéens qui viennent. Donc c'est les bacs sociaux... ST2S, je crois. Oui. Donc, en fait, beaucoup de personnes viennent faire un peu leurs armes à l'EHPAD et puis après partent ailleurs parce que c'est moins dur, parce que c'est mieux payé ou parce que c'est plus gratifiant. Mais en tout cas, l'EHPAD joue ce rôle-là aussi.
Et pour continuer sur le manque de moyens, tu parles en particulier du petit nombre de véhicules qui est à partager en je ne sais pas combien d'EHPAD pour assurer des sorties. Tu parles aussi de l'ascenseur qui est tombé en panne pendant quelques semaines et j'aimerais bien que tu me dises deux mots quand même, c'est un EHPAD sur quatre étages, hein, c'est ça ?
Oui.
Et ce que ça pose comme problème ?
Bah, l'ascenseur, à un moment, ça a été un peu notre cauchemar. Hein. C'est un établissement sur quatre étages, donc l'ascenseur sert en permanence. Et il y en a deux, et un des deux est tombé en panne, et ça a duré. Et ce qui vraiment a beaucoup pesé à la fois sur le personnel et les résidents, parce que l'ascenseur, c'est pour les personnes qui vont manger en salle à manger collective. C'est deux fois par jour la queue devant l'ascenseur et puis après rentrer à un fauteuil, deux fauteuils, trois fauteuils en tassant bien une personne à côté, une deuxième. Enfin voilà, on a toujours l'impression de les entasser. C'est un moment qui n'est pas agréable. Franchement, à chaque fois, je me dis les pauvres. Mais pour nous aussi, parce que c'est toujours des moments assez stressants où on fait attendre les résidents. Ils sont dans une position, c'est assez inconfortable. Donc quand un ascenseur tombe en panne, bah, c'est juste l'enfer. Donc ça veut dire, moi à l'étage où j'étais, il y avait une porte coupe-feu à passer pour rejoindre le deuxième ascenseur. Et donc ça veut dire avec un fauteuil, se tourner, passer en marche arrière, pousser avec le cul la porte et puis refaire un demi-tour. Bon ben voilà, moi un mois de ce régime et j'avais des douleurs et c'est pareil pour tout le monde. Donc en fait, le matériel, ça joue beaucoup. Là, l'ascenseur, c'est un exemple, mais il y a d'autres. Pour des aides-soignantes, ça va peut-être être le lève-personne ou des choses comme ça.
Je te propose peut-être, si tu veux bien, lire un passage. Et puis ensuite, on passera au...
Je t'en prends de ton bouquin.
Ouais, vas-y.
J'ai toujours eu de beaux cheveux. Mon petit plaisir du lundi et du jeudi, c'est le nettoyage du salon de coiffure. Il est situé au troisième, mon étage habituel, entre la chambre de Madame Testu et le salon télé. Nadine, la coiffeuse attitrée, y officie tous les dimanches et mercredis après-midi. C'est une personne très appréciée. On vient de loin pour lui confier sa chevelure, du deuxième étage, du premier et même du rez-de-chaussée. Je ne serais pas étonné qu'elle ait plus de fidèles que le prêtre qui vient dire la messe une fois par mois. La pièce a la taille d'une chambre double avec une fenêtre qui donne sur le magnolia du parc. Le mobilier a son charme, deux fauteuils en sky marron, pénibles à déplacer, face à un comptoir en formica vert d'eau surmonté d'un grand miroir. Un fauteuil noir inclinable pour le bac shampoing et un casque de séchage monté sur un pied branlant. Le reste du matériel, Nadine le transporte dans sa mallette. Le sol est revêtu d'un lino usé et taché, qui ne donne pas envie de s'échiner à l'astiquer. Il y a aussi une table de massage qu'utilise la kiné, sur laquelle il m'est arrivé de faire de courtes siestes. La salle d'attente est dans le couloir, trois fauteuils adossés au mur. C'est peu compte tenu de l'affluence, mais une bonne partie de la clientèle vient avec son fauteuil personnel. Aujourd'hui, Madame Simonetti décline ma proposition de faire un petit tour dans le jardin. Elle est inscrite pour 16 heures. J'insiste. Juste 10 minutes, Yvette, ça vous ferait du bien. Non, non, je ne veux pas être en retard. Elle ne le sera pas, il est à peine 14 heures. Mais l'attente participe au plaisir. Celle-là, tout du moins. Pour l'attente bicotidienne devant l'ascenseur avant les repas, c'est moins évident. Cela permet aussi à Yvette de voir du monde, puisque son fauteuil à elle est situé tout près du salon. Autre plaisir, la sortie. Ça vous va bien, cette coupe, Suzanne ? Oh, j'ai toujours eu de beaux cheveux, me répond celle-ci. Ils sont clairsemés, certes, mais très bien mis en valeur. Ce qui est certain, c'est qu'elle a gardé les mêmes yeux d'un bleu intense relevé de petites touches ocre, magnifiques. Suzanne, c'est un poème. Et ses yeux un tableau. Ainsi, ces vieilles dames se délectent des petits compliments qui leur sont adressés le restant de la journée, et parfois les jours suivants. « Mais qu'elle est belle !» s'exclame mon collègue Arnaud, très théâtral, lorsque Madame Hamon fait son entrée dans la salle à manger. Celle-ci rosit de plaisir sous son carré aux reflets bleutés. J'en profite pour féliciter une dame centenaire qui apporte beaucoup de soin aux détails de sa tenue. Madame Baquier, vous êtes très élégante. En appui sur sa canne, elle me gratifie d'une petite révérence et me répond avec un air très sérieux et un bel accent ariégeois. Et encore, vous n'avez rien vu. Au quotidien, ce sont les aides-soignantes qui œuvrent à la beauté des résidentes. Ce sont elles qui coiffent et rasent, vernissent les ongles, épilent et maquillent. Et il n'est pas rare que l'une ou l'autre apporte son propre vernis ou sa trousse de maquillage de meilleure qualité. Compte tenu du peu de poils qu'il lui reste sur le caillou, M. Marty estime qu'il est inutile de passer chez la coiffeuse. Il me demande de lui raser le crâne avec sa tondeuse personnelle, ce dont je m'acquitte très consciencieusement. Pour cette peine bien légère, il tient absolument à me rétribuer et je dois m'enfuir pour qu'il ne me glisse pas un billet de 10 euros dans la poche. Comme les nouvelles vont vite, je ne tarde pas à voir un nouveau client. Monsieur Kim Moon, qui, lui, n'aurait jamais songé confier sa tête à une femme. Cette fois, j'officie avec la tondeuse de la maison chaussée d'un sabot de 3 mm. Cela me prend une dizaine de minutes, tant sa tignasse est drue. « Ça va », me fait-il, sans prendre la peine de se regarder dans le miroir. Il se contente de se passer la main sur le crâne. Puis il me demande « Cigarette ?» Et comme je lui réponds que je ne fume pas, il retourne s'allonger. Il n'est pas facile de communiquer avec ce monsieur, et cette tonte aura été notre moment d'échange le plus intense. Je commence à y prendre goût, et maintenant que j'ai la tondeuse bien en main, je n'ai pas envie de la lâcher. À qui pourrais-je proposer mes services à présent ? Monsieur Nadal, je file dans sa chambre lui demander « Tu veux que je te coupe les cheveux, Alberto ?» Il ne parle plus, mais il me fait de grands oui de la tête et des yeux, tout en balançant furieusement les jambes. Je m'en doutais, il dit oui à tout. Je découvre un autre type de calvitie. Il lui reste une micro-mèche sur le devant, que je préserve, tandis que la couronne sur la nuque est bien fournie. Ses cheveux sont encore plus fins que ceux de M. Marty. Il a la peau du crâne toute sèche. Par endroits, ça forme des plaques blanches. J'hésite quand même à lui appliquer la crème réparatrice pour pieds desséchés que je trouve sur la tablette de sa salle de bain. Finalement, il est très satisfait, moi aussi, et lorsqu'Aminata lui caresse le crâne en le félicitant pour sa coupe, nous exultons tous les deux. Un mercredi, alors que le compte à rebours du repas du soir ne va pas tarder à s'enclencher, la porte du salon de coiffure est encore ouverte. Je passe dire bonjour à Nadine, qui, à l'occasion, me coupe vite fait les cheveux à la fin de son service. Madame Cadenne a le casque de séchage bien enfoncé sur la tête. Il y a aussi Malika, une aide-soignante. Nadine est en train de raconter que des copains de son fils, âgés d'une vingtaine d'années, sortent avec des femmes de plus de 40 ans. Malika commence par trouver ça glauque. Et quand Nadine lui demande si elle sortirait avec un homme de plus de 50, elle esquive. « Je suis mariée ?» C'est pas la question. Malika semble se la poser vraiment. On n'entend plus que le léger ronron du casque. Madame Cadenne ne dit rien, mais je sens qu'elle brûle de connaître la réponse. Il faudrait vraiment qu'il soit beau et qu'il ait du fric, finit par lâcher Malika. Vous en pensez quoi, vous, Madame Cadenne ? Je lui demande. Oh, vous savez, j'étais enceinte à 16 ans, 2 mois après avoir rencontré mon futur mari. Alors, à mon âge, les conventions. Et nous continuons ainsi, bien installés dans nos fauteuils, à discuter différences d'âge dans le couple, cougar et adultère, jusqu'à ce que Malika se lève en soupirant. « Bon allez, faut que j'y aille. » C'est aussi le moment pour Nadine de libérer Madame Cadenne de son casque et de lui retirer ses bigoudis, et pour moi de descendre au rez-de-chaussée, chercher le chariot chauffant et préparer mes 8 plateaux repas du soir. Demain, dans l'après-midi, je passerai donner un coup de lavette et de serpillière pour redonner un peu d'éclat à ce salon et vider une poubelle pleine de nuances de blanc et de gris. Merci.
Alors, est-ce qu'il y a des questions de...
Oui, merci de ta présentation, de votre présentation, super. Je n'ai pas lu le livre, mais je me pose la question de savoir les liens avec les familles des résidents.
Sujet compliqué. Moi, je dirais que j'ai eu de bonnes relations avec les familles. Il y a des personnes qui sont très demandeuses de savoir ce qui se passe, comment leur papa, leur maman. Enfin, il y a une réelle demande. Il y a des gens qui parlent aussi, qui racontent. Parce que quand les personnes ne sont plus en mesure de raconter ou les souvenirs sont trop diffus, souvent les enfants ou la famille complète, et c'est bien. Moi, j'ai apprécié ces moments-là. Et après, avec certaines familles, c'est compliqué. On a eu des rapports assez compliqués avec une famille, notamment. Et là, ça peut être... là, on peut se retrancher vraiment derrière notre rôle. Enfin, moi, je me souviens avoir... vraiment mis une distance pour ne pas être confronté à une intrusion. Hein. C'est ça qui peut se passer parfois. Moi, je n'ai pas été trop confronté, disons, que les aides-soignantes et infirmières, et surtout l'administration, je pense, est plus confronté à parfois à des rapports conflictuels. Je pense qu'il y a aussi des griefs qui peuvent être légitimes, une certaine frustration. Je pense aussi que ce qui s'est dit de l'EHPAD ces derniers temps n'a pas aidé, parce qu'il peut y avoir la sensation qu'on maltraite ou qu'on ne traite pas assez bien. Et donc c'est vrai que le livre qui est paru, qui parle des EHPAD d'Orpea, n'a pas fait de bien... était nécessaire et vraiment salutaire, mais en même temps à contribuer à ternir l'image qui était déjà pas bien reluisante. Donc je pense que ça joue aussi sur les familles. Ça a dû être un choc, hein, j'imagine. Moi, ce bouquin, je ne sais pas si vous voyez à quoi je fais référence, hein, Les Fossoyeurs de Victor Castanet, donc une enquête sur le système Orpea. Moi, je ne voulais pas le lire, hein, ce bouquin. C'était, j'avais envie de lire autre chose que... en rentrant chez moi, que quelque chose qui parle de l'EHPAD, mais celui-là en particulier, j'ai mis longtemps à me décider à le lire. Et ça a été une grosse claque, hein, quand même. Hein, c'est assez inimaginable. Donc j'imagine le choc des personnes qui l'ont lu et qui se disent « Mais est-ce que c'est pareil ?» Donc oui, je pense que ça a dû jouer. Bon, là, je pense que sur la relation avec les familles, il y aura peut-être une personne plus... Marine, si tu veux, pour ça ou pour autre chose, prendre la parole.
Alors, bonjour à tous. Donc, moi, je suis Marine et je suis en fait la directrice de l'EHPAD, dont il est question. Voilà. Donc, pour répondre, alors, je ne sais pas qui posait la question, mais la relation avec les familles est très délicate. Donc, je pense que Nicolas a une bonne analyse par rapport à tout ce qu'on peut dire sur les EHPAD dans les médias. Donc, ce n'est pas tout le temps comme ça. Il y a de très bons EHPAD, très bienveillants. On fait avec les moyens que l'on a aussi. Donc, il faut le soulever. Il y a des très bonnes personnes qui travaillent en EHPAD. Et je pense que ce livre, effectivement, Les Fossoyeurs, était nécessaire parce que c'est vrai ce qui est raconté. Mais on est passe tous dans le même paquet. Et malheureusement, quand on arrive de l'extérieur ou qu'on a ses proches en EHPAD, on va se poser la question. Et par exemple, nous, le jour où le livre est sorti, on s'est fait agresser toute la journée par les familles. Donc quand je parle d'agression, c'est des vraies agressions. Et donc c'est aussi violent pour le personnel qui se sent très offensé par rapport à ça. Et après, il y a des familles qui sont très demandeuses, ce qui est normal, qui est légitime. Il y a des jours où on merde aussi, il faut dire ce qui est. Donc on s'excuse et on fait plus attention peut-être les fois d'après. Il y a des jours où y a des familles qui sont très malveillantes, qui vont prendre des photos, qui vont menacer, qui vont insulter. Et ça, c'est aussi compliqué. Voilà. Donc tout le monde est confronté à ça. Et il y a des groupes de parole avec des psychologues qui se mettent en place, par exemple pour le personnel, pour surmonter tout ça. Il y a des protocoles violence qui sont faits pour ça. Donc c'est vraiment délicat. Et après, il y a des familles qui sont exemplaires, voilà, qui sont très aidantes, très bienveillantes, qui viennent quand on fait des activités avec les résidents et qui s'occupent de tout le monde et pas que de leurs proches, qui vont nous aider dans les sorties, par exemple, pour ce, comme dit Nicolas, effectivement, on n'a que deux mains, donc il faut pousser des fauteuils, donc il faut des gens. Et ces personnes-là donnent aussi de leur temps, donc il y a un peu de tout. C'est une mini-société, un EHPAD, qui est retracé dans le bouquin de Nicolas, et les familles en font effectivement partie.
C'est entre un témoignage et un remerciement, en fait. Moi, je suis concernée par... alors, non pas en EHPAD, mais en foyer, et ça, c'est à peu près similaire. Nous, c'est notre enfant qui vit en foyer. Et moi, je tenais à remercier vous, les professionnels, que ce soit dans la direction, l'administration, et parce que ce que vous évoquiez dans les tâches, moi, ça m'a renvoyé, parce qu'on se disait, oh, on a l'impression de vivre le quotidien, quoi. parce que dans les tâches répétitives, etc., qui usent sur l'aspect qui est très intelligent de votre part, de dire, à un moment donné, on arrive à une limite et on peut être mal... on n'est plus bienveillant, on arrive dans une maltraitance, et il faut savoir que la maltraitance, ça peut être aussi invisible. Parce que quand on garde soit la personne âgée chez soi, ou son enfant, qui est en situation de handicap, par exemple, et ben on peut le manipuler terriblement, en fait, parce que c'est des personnes qu'on garde avec nous, etc., et on projette, nous, ce qui nous semble bien pour la personne, on pense être bienveillant. Et ça passe, et ça dure, et ça dure, et on avance, et on se rend compte qu'en fait, l'individualité n'est pas respectée. Et par l'intermédiaire, soit des EHPAD ou des foyers, ça nous permet, en fait, la personne qui intègre ce genre d'établissement peut vivre sa vie. Peut vivre sa vie, soit de personne âgée ou soit de personne handicapée, avec des personnels qui sont vraiment adaptés pour ça. Et en fait, moi, ce que j'ai toujours ce qu'on a fait, ce qu'on s'est toujours remis en question pour justement éviter cette maltraitance invisible, c'est de se remettre en question tout le temps pour éviter ce genre de situation. Et qu'est-ce que j'ai perdu ma pensée. Et ce qui permet qu'en fait, la personne... on n'est pas malade, on ne s'imagine pas vivre à l'hôpital. C'est un truc impensable. Quand on est malade, on est très content d'être à l'hôpital. Enfin, très content. On est content d'être pris en charge et d'être soigné. C'est ça. Je ne dis pas qu'on est content d'être à l'hôpital et d'être malade. Ce n'est pas du tout ça. Ce que je veux dire, que c'est important d'avoir des structures et du personnel qui nous accompagne dans nos besoins. Et donc, je pense que c'est important d'être aussi entre les familles, vous, professionnels, et les résidents, c'est d'être partenaire. Ça, c'est toujours quelque chose qu'on a travaillé quelque part plus pour ne pas tomber se résigner et se sacrifier à la vie de son parent ou de son enfant, mais de plutôt être partenaire. Et c'est quelque chose qu'il faut vraiment continuer à travailler, ce que vous faites, etc. Et vos témoignages dans ce livre, je vais le lire, je pense qu'il permet d'ouvrir les yeux de ça, de dire n'ayez pas pitié des gens qui vivent en EHPAD ou en foyer, ou de dire que c'est des métiers complètement... Alors, c'est difficile, il n'y a pas de moyens, etc. Mais voilà, il faut être partenaire. C'est vrai qu'on pourrait idéaliser, de dire qu'il faudrait ouvrir les portes, faire des choses pour qu'il y ait des passerelles, mais je crois qu'il y a de plus en plus de choses qui se font comme ça. Et parce qu'on voit dans la rue des groupes qui sortent ou des activités. Donc voilà, c'était juste témoigner. Et tout ce que des petites phrases, des petits mots... autant par vous que vous, l'auteur. Voilà, c'est des choses qui sont vraies et qui sont importantes à vivre et à savoir quand on ne le vit pas. Quoi. Voilà, merci. C'est tout. Mais soyons partenaires, en effet.
oui, juste une chose. Bon, moi, j'aurais quand même un regard un peu différent sur le fait d'être content, d'être en EHPAD, hein, il n'y en a pas beaucoup quand même. Là, je pense que c'est souvent c'est vécu... j'ai pas suffisamment de recul. Je vais peut-être te laisser parler là-dessus.
Je pense que la majorité des gens qui sont en EHPAD aujourd'hui ne voulaient pas être en EHPAD. Mais il arrive un moment où, quand vous vous occupez de votre parent à la maison, c'est très complexe et nous, on prend le relais et on le présente aussi aux familles parce que c'est vraiment bouleversant pour les familles, parce qu'on accompagne aussi les familles, on accompagne les personnes qui vivent en EHPAD, mais on accompagne aussi leurs proches. On leur présente un peu cet accueil en leur disant bah, maintenant, nous, on prend le relais sur les choses pas évidentes de la vie et vous, vous allez venir profiter des bons moments. Je pense que c'est pareil pour les enfants en situation de handicap. C'est très violent. On a beaucoup de sentiments d'abandon, par exemple. Mais il y a aussi, c'est une manière pour vous, enfin pour les proches, de retrouver aussi leur vie et de retrouver une vraie relation avec leurs parents. Vraiment une relation de parents-enfants et pas l'inverse. Mais c'est vrai que je pense que les résidents, ce qu'on les appelle comme ça, la grande majorité ne souhaitait pas être ce qu'ils sont devenus aujourd'hui, la dépendance, les troubles cognitifs, la douleur, la souffrance et la mort qui arrive, hein, forcément. Donc c'est très complexe. Mais nous, on le prend d'un autre côté et on est là pour eux, on est là pour les proches et on le positive un petit peu en se disant qu'on va faire le maximum pour leur apporter un maximum de choses sur cette fin de vie qui peut être compliquée. Mais si on leur demandait réellement, sans trouble cognitif, s'ils avaient envie d'être là, et la dame le dit clairement, je reprends vos mots, j'ai pas envie d'aller en EHPAD, et moi aussi, objectivement, j'ai pas envie d'aller en EHPAD, j'ai pas envie que mes parents aillent en EHPAD. Mais c'est malheureusement l'issue, hein, désolée de vous le dire. Et en tout cas, pas tous... sûrement pas dans les quelques années à venir, mais en tout cas, ça, on verra nos politiques. Mais dans tous les cas, aujourd'hui, c'est la solution et nous, on fait notre maximum. Donc, je pense qu'on le voit aussi dans le bouquin de Nicolas.
Moi, j'ai une anecdote. une aide-soignante qui était étudiante en médecine, elle était en quatrième année. Elle revient à l'office, donc à l'endroit où on se retrouve, on, on fait nos pauses, on discute. Elle revient et complètement écœurée, dépitée. Et puis elle dit non, mais moi c'est bon, jamais je finirai ici. Je me fais une ordonnance. Alors je sais plus c'était pour quel produit, mais enfin voilà, c'était pour en finir et pas terminer ses jours en EHPAD. Et là, tout le monde a dit ah ouais, moi aussi tu m'en fais une quoi. Et là, on s'est dit, ouais, enfin, moi, je me suis dit quand même, là, on est six, et tous les six, là, on préfère l'ordonnance à finir là, où on travaille et on est là quand même pour le bien-être des résidents, mais enfin, quand même. Et aussi, autre anecdote, une dame qui me demande, mais excusez-moi, mais je comprends. Comment elle l'a dit ? J'ai beau chercher, j'arrive pas à trouver ce que j'ai bien pu faire de mal pour être ici. C'est terrible quand même. Bon, elle avait plus sa tête, hein, mais quand même, hein, ça dit quelque chose. Donc, moi, je pense pour. Je vous rejoindrai dans le sens où on a besoin d'un EHPAD, on a besoin de l'EHPAD. Je pense que là. Dans notre société telle qu'elle est, on peut pas dire on s'occupe de nos parents jusqu'à la fin. C'est trop compliqué. Et puis l'EHPAD, c'est médicalisé hein, quand même. Il faut pas négliger cet aspect-là. Hein. Il y a tout l'équipement, tout le savoir-faire. Il y a un médecin, il y a des infirmières. C'est compliqué. Mais on a besoin d'un EHPAD pas de celui-là. Enfin, moi, j'aimerais bien que. Moi, c'est pas juste pour faire changer le regard sur cette institution. Moi, j'aimerais que ça change, quoi, que ce soit vraiment différent. Ben, un EHPAD qui soit plus ouvert, plus respectueux, mais à la des résidents comme du personnel. On peut pas bien s'occuper quand soi-même on se sent maltraité quoi.
Je voudrais pas monopoliser la parole quand même. Moi j'ai travaillé toute ma vie dans l'enfance inadaptée et j'ai été secrétaire d'un CHSCT de l'association qui avait beaucoup d'EHPAD. Et je trouve effectivement il y a des choses extraordinaires. Moi j'ai assisté à un défilé de mode, non c'était trop drôle. Et à la fois c'est vrai que c'est un lieu de vie possible. Mais quand on comparait avec les enfants, et toi Nico tu parlais de l'histoire de l'intimité ou comment ne pas se laisser trop aller dans le lien interpersonnel. Moi je pensais aussi dans la position des éducateurs par rapport aux enfants. Et comment tu peux te défendre d'un lien de trop grande proximité? Mais au bout d'un moment, il y a un lien de transfert et ça ne se fait pas avec tout le monde. Et jusqu'à quel point il faut s'en défendre? Pour moi, c'est une question aussi. Après, juste une petite remarque. Effectivement, toi, ce n'est pas ta carrière, l'EHPAD. C'est un autre problème par rapport au reste du personnel. Et enfin, moi, pour ce CHSCT, on faisait beaucoup de boulot avec tout le personnel parce que c'est vrai que c'est physiquement hyper dur. Et moralement, je veux dire psychologiquement. Et il y a quand même, enfin moi en tout cas dans l'association dans laquelle j'étais, je trouvais que vraiment ils faisaient du super bon boulot, quoi. Parce qu'il y avait quand même un encadrement, enfin du moins des tentatives, des formations pour physique. Enfin bon, il y avait une prise en compte en tout cas de la souffrance du personnel, on va dire aussi. Parce que c'est pas évident de bosser avec des gens qui vont mourir, quoi, hein, en gros.
Normalement, ça va jusqu'au bout.
Oui, bonjour. Merci pour d'être venu et de nous offrir ce témoignage. Je voulais savoir juste quel lien vous entretenez avec le passé, le passif des patients, et quel point vous êtes au courant de ce qui se passe et de leur passé, de leur vie, et comment ça influe dans votre travail de savoir que machin a fait, je sais pas moi, a fait le Pérou et a vécu en Afghanistan pendant 3 ans. Je sais pas, je dis des bêtises, mais de connaître ce passif-là, à quel point vous le connaissez, dans la mesure où les patients ne peuvent ne pas en parler, ou peuvent en parler, de manière déformée, et quel est ce lien-là que vous avez avec ça? Merci de.
Ben on est au courant je pense qu'il y a différents niveaux d'accès aux informations. L'ASH, c'est la personne qui est quand même en charge du nettoyage. Donc, ce n'est pas la personne la plus informée. Les aides-soignantes en savent plus, et notamment sur l'état physique, et sont aussi plus en contact. Les aides-soignantes sont celles qui sont au quotidien. Donc, il y a plus d'échanges avec la famille aussi, et peut-être... que dire là-dessus ? Moi, je trouve que c'est toujours bien de savoir qui est la personne. C'est important quand il y a une personne qui n'est plus en mesure de faire, de communiquer ou d'agir, de savoir que cette personne a été et que ce n'est pas juste un résident qui dans son fauteuil. Donc c'est important, mais on peut pas le savoir pour tout le monde. Comme je disais, là c'est 88 personnes. Moi, je suis resté beaucoup au même étage, mais souvent on change. Donc on peut pas connaître tout le monde. Par contre, il y a des personnes qui parlent volontiers de leur passé, et ça c'est toujours un plaisir. Moi, bon, à un moment, j'avais commencé à recueillir leurs souvenirs, et tout de suite, je trouve que c'est très très fort. Il y a encore beaucoup de souvenirs de la guerre pour les personnes qui ont dépassé 90 ans. Ouais, c'est 85-90 ans. Et puis tout ce qu'on n'imagine pas. Un monsieur qui est dans son fauteuil et qui n'est plus du tout mobile, que ça a été un grand fan de vélo, qui construisait des vélos, son voyage de noces, ça a été une traversée des Pyrénées en tandem avec sa femme, enfin voilà, ce genre de choses, et c'est toujours plaisant, je trouve. Ou une dame, celle qui était chez la coiffeuse, qui était une fanatique de danse, qui passait tous ces samedis et dimanches au Ramier, la célèbre boîte, le dancing. Voilà, je trouve que c'est plutôt bien.
Je vais juste compléter, en fait, alors c'est à ça que servent les transmissions du coup, fallait que je te le dise, mais je blague, enfin entre guillemets. En fait, on fait des recueils de moments de vie qu'on appelle. Donc, c'est la psychologue qui s'en charge, notamment, et la cadre de santé, et aussi les soignants qui s'occupent des résidents. On le fait avant l'arrivée de la personne, quand elle arrive et tout au cours de son séjour. Et des fois, on apprend des choses, des ruptures dans la vie de la personne, mais très, très tard, ou par... des informations de la famille qu'elle nous donne au bout d'un moment, parce qu'il y a une relation de confiance qui doit s'établir aussi entre le résident et nous, et s'il ne peut pas communiquer ou il ne peut pas s'exprimer avec la famille, ses proches. Et je pense que le Covid, tu en parles d'ailleurs dans le livre, nous a beaucoup aidés, parce qu'on a été contraints de fermer, on a fait des visites encadrées par visio, en forme de parloir comme à la prison. Et c'est vrai, on a fait ça pour protéger nos résidents, et on les a protégés, puisqu'il n'y en a aucun qui a été touché par le Covid, et nous non plus d'ailleurs. Et pendant ces moments où ils échangeaient avec leurs proches, ils remémoraient certains souvenirs, et là on a appris beaucoup. On a vraiment beaucoup appris des choses qu'on ne savait pas. Et il y a des résidents qu'on accueille chez nous qui ont des passés très très douloureux. On a des personnes qui sont très âgées, donc des dames notamment, qui ont perdu leur mari au pluriel, leurs enfants. Et donc on a vraiment des histoires de vie très très compliquées, l'immigration, des situations familiales très complexes, d'abandon, des femmes battues, bon bref, je passe le détail. Et tout ça, le Covid nous a permis, enfin ces moments rapprochés, intimes avec les familles où on était présents, parce qu'on surveillait ces échanges, où on aidait le résident avec la visio, parce que nos résidents de 90 ans n'avaient jamais vu un ordinateur, ne comprenaient pas qu'à la télé c'était leur fille qui parlait, donc c'était des moments très marrants aussi. On a appris beaucoup à ce moment-là, et après c'est les échanges quotidiens qui nous permettent d'avoir les infos, et des fois on en apprend des personnes très isolées chez nous, on n'est pas de public, qui n'ont pas de famille ou on pense ne pas en avoir. Et quand la personne décède, eh bien, on apprend que quand je vais, par exemple, faire la déclaration de décès à la mairie, la dame à la mairie me dit « Ah ben si, monsieur avait un fils. » Et nous, on n'était pas au courant. Donc, il y a des choses qu'on ne connaît pas et on s'imagine aussi, je pense, des vies aussi des résidents avec ce qu'on sait et ce qu'eux, ils aiment, ce qu'ils nous... ils vont nous faire ressentir qu'ils aiment bien quand ils ne peuvent pas vraiment communiquer. Et du coup, on va jouer avec ça avec eux. Et petit à petit, on se crée ces relations-là.
Avant de passer à l'exercice tant redouté. Des... bon, Nicolas adore dédicacer ses livres. Tu veux ajouter quelque chose pour finir ou... Ou est-ce qu'on continue de manière informelle avec toi ?
Oui, ben voilà, c'est bien là.
C'est bien ? On est bien ? Merci beaucoup.
Merci à vous. Merci pour votre attention.
C'était Rencontre avec Nicolas Rouillet autour de son livre « T'as pas trouvé pire comme boulot ? Chronique d'un auxiliaire de vie en maison de retraite » paru aux éditions Luxe.
Sur livre d'or.